Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
C'est une des figures les plus sulfureuses, les plus mythiques, les plus ambiguës de la Seconde Guerre mondiale que Franck Ferrand a choisi d'évoquer aujourd'hui sur Europe 1, celle de l'amiral Canaris, le grand patron des services secrets du Troisième Reich. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. J'ai entre les mains un livre passionnant, à la fois concis et bien aiguisé, que viennent de publier les éditions Perrin. Il s'intitule « Canaris, le maître espion de Hitler ». Son auteur, l'historien Éric Kerjean, y démonte méthodiquement la légende qui a voulu faire de Canaris un traître à Hitler, une sorte de résistant de l'ombre. En vérité, nous dit Kerjean, si Canaris a laissé la résistance se développer au sein du service de renseignement allemand, c'était simplement pour mieux la contrôler.
Vous avez aussi invité Franck, Fabrice Dalméda, à nous rejoindre au Coluche.
Oui, Fabrice Dalméda, qu'on ne présente plus aux auditeurs d'Europe 1. Il a beaucoup à nous dire, lui aussi, sur le renseignement allemand, sur les espions nazis, sur la résistance réelle ou supposée de l'armée allemande à Hitler, la Reichswehr. C'est le moment de nous envoyer vos questions et vos remarques. Nous sommes tout à fait prêts à y répondre.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dans les années d'après-guerre, on est la fin des années 50, des années 60, le début des années 70, lorsqu'on a pris un peu de recul avec le conflit lui-même et qu'on a commencé à se pencher sur les arcanes alors assez mystérieux du Troisième Reich, une figure a émergé comme un être suprêmement captivant, l'amiral Wilhelm Canaris. Il faut dire que Canaris avait tout fait pour faire parler de lui. Non, il était resté discret, mais en tout cas, il avait tout pour fasciner, disons, les scénaristes et les chroniqueurs. Dignitaire des plus discrets, très proche de Hitler et en même temps impliqué dans le mouvement rampant d'opposition clandestine au Führer, grand patron du renseignement militaire allemand, l'Abwehr, et en même temps leader d'une sorte de résistance de l'intérieur, à la fois espion et conseiller, héros de l'ombre et agent secret, tout en présentant les dehors intrigants de l'homme secret à souhait, superstitieux, hypochondriaque, maladivement attaché à ses chiens. Bref, une légende à parfaire, un personnage idéal de film ou de roman. Le meilleur agent secret d'Hitler était en fait un anti-nazi. Ainsi pourrait-on résumer l'opinion générale que l'on s'était forgée, non seulement dans les anciens pays alliés, mais aussi et peut-être surtout en Allemagne même, où l'on ne se cachait pas d'une certaine admiration à son égard. Finalement, Canaris, c'était le haut dignitaire allemand dont on pouvait avoir moins honte que d'autres, puisque lui n'avait pas été nazi jusqu'au bout. C'est en tout cas ce qu'on pensait. Du reste, assez récemment, en 1996, un groupe d'étudiants allemands a obtenu la réhabilitation officielle de Canaris par la justice allemande. Et encore plus récemment, un courant juif ultra-orthodoxe est allé jusqu'à demander son inscription sur la liste des justes du mémorial Yad Vashem. Vous voyez que la légende de ce Canaris, qui en vérité aurait été un résistant ultra-secret, vous voyez que cette légende a la peau dure. Pourtant, dès le tournant des années 80, une biographie de Canaris par Heinz Höhne était venue modérer l'enthousiasme général pour ce super héros infiltré jusque dans l'intimité d'Adolf Hitler. Selon le journaliste allemand du Spiegel, la réputation légendaire du patron de l'Abwehr, réputation alimentée par tous les experts du renseignement qui voulaient en quelque sorte blanchir celui en qui ils reconnaissaient le régénérateur de l'espionnage moderne, cette réputation donc avait été largement surfaite. En vérité, écrivait Höhne, Canaris était une sorte de schizophrène à croix gammée, une sorte d'homme à deux têtes, un Janus qui tantôt aidait et servait le Führer avec passion, tantôt encourageait la vieille aristocratie militaire prussienne à conspirer contre Hitler. Ultranationaliste, très attaché au conservatisme et à l'autoritarisme incarné dans le nouveau régime, Canaris aurait été par ailleurs antisémite au point que certains lui attribuent la paternité de l'étoile jaune. Et d'un autre côté, voilà un homme qui, dès 1937, est choqué par la nomination de Göring au poste qu'il convoitait, celui de ministre de la guerre, est heurté par le pacte germano-soviétique, dégoûté par les méthodes anti-chevaleresques prônées par les nazis en Pologne et en URSS. Et c'est pour ça que peu à peu, il aurait en quelque sorte évolué vers une opposition de plus en plus radicale, quoique toujours secrète, à Hitler. Et cela au point de faciliter des tentatives d'assassinat contre le Führer. Les faciliter peut-être, y participer jamais, et c'est une limite de plus posée par Heinz Hoene à l'image du résistant de l'ombre. 30 ans plus tard, Éric Kerjean va beaucoup plus loin, vous allez le voir. Selon lui, Canaris n'est pas du tout Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il n'est de bout en bout que Mr. Hyde, un nazi pur sucre qui, lorsqu'il s'approche de la résistance allemande à Hitler, ne le fait en vérité que pour mieux la contrôler.
Extrait sur Europe 1 de la bande originale du film de 1976, L'aigle s'est envolé, Franck.
Alors avant d'en venir à la thèse d'Éric Kerjean et de l'approfondir en compagnie de Fabrice d'Almeida, j'aimerais, pour vous faire toucher du doigt la légende Canaris, revenir au récit que l'auteur américain d'origine autrichienne Kurt Singer, spécialisé dans l'espionnage, c'était, vous savez, la grande époque, à la fin des années 50, quand on écrivait ces grands livres d'espionnage là, qui faisaient des best-sellers incroyables. Voilà donc la vision que Singer donne du parcours de Canaris juste à l'aube de la guerre. Je prends le récit, si vous le voulez bien, et tout à fait à titre d'exemple. Je le prends en 1938, à l'époque où Canaris, qui est déjà installé à la tête du renseignement allemand, s'intéresse de près à l'Angleterre. Il était, comme beaucoup d'Allemands, anglophile, nous dit Kurt Singer. Il voulait la guerre avec la Russie, il haïssait le communisme, il n'était peut-être pas foncièrement nazi, mais il faisait le salut hitlérien et voulait voir réaliser l'hégémonie pan-germanique comme des milliers d'autres officiers qui n'étaient pas nazis non plus avant et après l'épisode hitlérien. Vous voyez quand même qu'à l'époque, il n'est pas question du tout d'un Canaris qui, pur nazi, se servirait en quelque sorte de son image d'opposant de l'ombre pour essayer d'infiltrer des réseaux de véritable résistance à Hitler. À l'époque, on prend pour argent comptant son positionnement plus que réservé à l'égard du Führer. L'amiral Horthy, l'ancien dictateur hongrois mort en exil, a déclaré à Jan Colvin, l'auteur d'un ouvrage sur le chef des services secrets allemands, « Canaris et moi étions d'accord en 1939 pour penser que si l'Amérique entrait en guerre contre l'Allemagne, l'Allemagne perdrait. » Canaris savait que le sort de la Grande-Bretagne et celui des États-Unis étaient liés. Il lui fallait donc s'introduire dans le service secret britannique et dans le service américain. Et il va y arriver du reste. Le 21 janvier 1938, écrit Kurt Singer, Canaris arrivait à Londres et s'installait au 28 Cleveland Terrace, Bayswater. Il ne savait pas exactement quand il s'en irait. L'intelligence service fut presque immédiatement mise au courant de sa présence et Canaris passa le mois de janvier et une partie de février à essayer de se procurer certains renseignements, nous dit cet auteur, encore une fois spécialisé dans l'histoire des services de renseignement. L'intelligence service savait ce qui se passait. Le but du voyage de Canaris était de poser des jalons. Canaris découvrit que ses propres agents faisaient partie du contre-espionnage anglais, mais il ne les arrêta pas. Il laissa les portes ouvertes, la guerre avait commencé, il savait que dans quelques mois l'Amérique entrerait dans le conflit et que l'Allemagne perdrait la bataille. C'est par ces voies secrètes que Canaris négligea volontairement Canaris négligea volontairement de bloquer, que les autorités britanniques furent constamment informées des projets allemands conçus à l'échelon le plus élevé. On voit bien là le double rôle d'un Canaris, son côté extrêmement machiavélique et la facilité avec laquelle il est capable de jouer sur deux, pour ne pas dire sur trois tableaux de renseignement, espionnage, contre-espionnage, contre-contre-espionnage. Mais encore une fois, il n'est pas question d'aller voir en lui, pour l'instant, quelqu'un qui travaille purement et simplement dans les intérêts du Reich. Canaris, le génie, devint presque l'espion en chef de deux pays, va jusqu'à écrire Kurtzinger. Les Britanniques se rendaient compte que Canaris ne faisait rien pour arrêter le passage des renseignements après 1943. Canaris, prévoyant le désastre, espéra alors sauver l'Allemagne en conservant ce moyen de communiquer avec la Grande-Bretagne. Il préparait l'avenir. Voilà, ça c'était l'idée qu'on en avait. Et lorsque Canaris est totalement impliqué, et là les biographes sont bien obligés de le voir, dans un attentat qui est destiné à liquider Hitler, en fait, on le crédite de l'échec de cet attentat, et on estime qu'en vérité, il avait tout fait lui-même pour faire échouer le projet allemand. Dans cet attentat, néanmoins, Leslie Howard, l'acteur, un expert économique qui s'appelle Alfred Schoenfels et qui ressemblait beaucoup à Churchill, il fumait le cigare, il portait le même genre de pardessus, etc. Ces deux hommes sont tués. Néanmoins, en l'occurrence l'avion a été abattu par un avion de la Luftwaffe, néanmoins on considère que Canaris a fait exprès de modifier la cible. Il a en quelque sorte voulu tromper ses propres services pour ne pas gêner l'Angleterre et pour rendre service à Churchill. Canaris fit-il exprès de se tromper d'avion, comme le prétendent ses amis, demandait Kurtzinger. On ne saura jamais la vérité, mais cela est plus que probable. Alors avant d'en venir à une thèse extrêmement différente, j'aimerais vous sensibiliser en quelque sorte à la difficulté qu'il peut y avoir à étudier, même 70 ans plus tard, des questions qui relèvent directement du domaine du secret. Lorsqu'on est en présence d'espions, d'agents secrets, de services de renseignement, les documents, même les documents d'archives dont on dispose, sont à prendre avec des pincettes. Il est extrêmement difficile d'avancer de façon certaine. Vous voyez néanmoins qu'un auteur comme Kurtzinger ne va pas jusqu'à reprendre à son compte les allégations de ceux qui voudraient carrément faire de Canaris un agent officieux du contre-espionnage allié. Lui préfère ne pas se prononcer. Éric Kerjean se prononce et je vous propose de voir maintenant ce qu'il pense du rôle exact de l'amiral Canaris, le maître espion d'Hitler.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, Éric Kerjean, il est historien, spécialiste du Troisième Reich et du renseignement civil et militaire, auteur, vous l'avez cité dans votre récit, de Canaris, le maître espion de Hitler chez Perrin. Également avec nous, Fabrice Dalméda, professeur à Paris 2 à l'Institut français de presse et auteur notamment de Ressources inhumaines, les gardiens des camps de concentration et leurs loisirs chez Fayard.
Et oui, c'est le dernier ouvrage de Fabrice Dalméda, qui d'ailleurs a reçu le prix Augustin Thierry des rendez-vous de l'histoire de Blois.
Et pour
bravo,
lequel, Franck, vous aviez eu la gentillesse de m'inviter.
N'est-ce pas ?
Merci.
Alors, Éric Kerjean, vous frappez fort, si je puis dire, avec cette vision assez nouvelle de Canaris. Il faut dire, c'est pour ça que je me suis permis de le citer dans cette présentation que j'ai faite en début d'émission, que plusieurs biographes déjà ont émis les plus grandes réserves sur le caractère héroïque de Canaris. Ce que vous faites, vous, c'est que vous ne dites pas qu'on est dans l'ambivalence, dans l'ambiguïté, que l'homme a deux faces. Vous nous dites qu'il n'en a qu'une et lorsqu'il semble se rapprocher d'une résistance quelle qu'elle soit, c'est en vérité pour mieux piéger cette résistance et pour déjouer ses projets. Alors, si vous voulez, avant d'entrer dans ce débat, si je puis dire, j'aimerais qu'on revienne sur le parcours de Canaris, parce qu'il faut comprendre d'où vient cet homme-là, Fabrice Dalméda. Il est issu du sérail, si je puis dire.
C'est vraiment l'homme issu du sérail et qui commence sa carrière avant la Première Guerre mondiale, qui est promu dans la guerre, mais il continue à rester dans le sérail puisqu'il ne faut pas l'oublier. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il est membre des corps francs. Il va servir à former des hommes qui vont réprimer très violemment, très brutalement le communisme, sans doute l'élément qui le rapproche de cette extrême droite à laquelle il adhère déjà. Et puis, sous la République de Weimar, il continue sa carrière d'officier de marine. Belle carrière d'ailleurs, hein, quand on regarde. Et ça le rapproche de plus en plus des milieux de l'élite, mais de l'élite, comment dire, à la fois militariste, ultranationaliste et anti-républicaine.
Son nom apparaît toujours, pour citer un chapitre extrêmement sulfureux de la Première Guerre mondiale, son nom apparaît toujours dès qu'on parle de Mata Hari. Est-ce qu'on peut une fois pour toutes tordre le cou à la légende, Éric Kerjean ?
Mais oui, je crois qu'il n'a absolument rien à voir avec ça, qu'il ne l'a pas connu. Et voilà,
donc, affaire classée. On est dans le mythe et la légende pure. Là,
ah, voilà. Mais totalement, totalement.
Mais alors, très vite, ce personnage va tisser sa propre légende. Il ne fait rien contre. Il entretient savamment une sorte de mystère.
Oh bah oui, mais Franck, imaginez le chef des services secrets, quel que soit le régime. Si on voulait comparer aujourd'hui les hommes du renseignement, le patron de la DCRI, par exemple, oui. Entretiennent toujours autour d'eux une espèce de fantasme. Alors, c'est son cas, mais c'est un cas en plus particulier parce que, je ne veux pas anticiper peut-être sur ce qu'Éric Kerjean va dire, mais parce que quand on entre dans le régime nazi, il est très vite nommé responsable du contre-espionnage. On sait qu'il a des relations très proches avec les grands dirigeants du régime, mais c'est en même temps, et ça il ne faut pas l'oublier, un grand mondain. Donc quelqu'un qui fréquente l'aristocratie, quelqu'un qui est dans les soirées berlinoises, on le trouve dans les listes de gens qui fréquentent les grandes invitations, pas seulement celles officielles autour de Hitler, mais aussi les grandes invitations informelles avec les familles, notamment les familles de l'aristocratie monarchiste. Et peut-être là-dessus, il faudra discuter, parce que peut-être là, ça donne la clé du rapprochement qu'il a pu avoir avec un certain nombre de personnalités qui, au lendemain de la guerre, apparaissent comme des réactionnaires, mais pas des nazis.
Mais pas des nazis. Ce qui est très intéressant, c'est le rôle, évidemment, de la Wehrmacht dans cette affaire et de cette aristocratie prussienne. On y viendra si vous voulez tout à l'heure. J'aimerais qu'on fasse en quelque sorte un chapitre à part là-dessus sur cette résistance de l'intérieur à Hitler. Pour l'instant, continuons à suivre notre canaris sur les marches du pouvoir. Il est en train de prendre la tête du service de renseignement militaire, de l'Abwehr, qu'il réforme de fond en comble au point qu'un certain nombre d'experts du renseignement nous présentent aujourd'hui Canaris, un peu comme le refondateur du renseignement moderne, Éric Kerjean.
Et en parlant d'experts, je vais surtout parler de Wolfgang Krieger, qui a écrit un livre sur les services secrets des pharaons à la CIA. Et effectivement, c'est lui qui montre à quel point Canaris a réussi à faire de l'Abwehr l'un des services secrets le plus efficace de la Seconde Guerre mondiale.
Et il a des méthodes qui sont d'une incroyable modernité. Déjà, d'abord, il considère les services secrets comme une administration parmi d'autres, en quelque sorte, avec un organigramme extrêmement structuré. Ça n'a rien pour déplaire au régime nazi, j'imagine. Et dans cet organigramme, un partage de responsabilités extrêmement cloisonné, ce qui est le contraire même de tout ce qui se faisait depuis si longtemps. Je pense forcément naturellement au secret du roi du temps de Louis XV, mais d'une façon générale, l'histoire des services secrets s'était faite dans une forme de confusion, disons-le. Avec Canaris, plus de confusion, l'efficacité et des rouages extrêmement bien huilés, Fabrice d'Almeida.
Oui, il y a une hiérarchie, il part en fait, sa réflexion est partie de la cellule de base. Parce qu'au fait, très longtemps, on réfléchissait à partir d'un agent et puis un responsable global qui traitait l'ensemble des informateurs. Un peu comme un inspecteur avec ses informateurs et ses mouches. Lui, il va penser l'idée qu'en fait, il ne faut pas avoir d'agent isolé. D'abord parce qu'un agent isolé, ça risque de bouger idéologiquement et ensuite, ça risque d'être retourné facilement. Donc, il faut forcément avoir des cellules qui fonctionnent à trois. Donc, un responsable de cellule et deux personnes en sous-ordre, mais qui peuvent elles-mêmes être contactées par un tiers. Donc ça permet un contrôle permanent, parce que faut bien penser que, pourquoi est-ce qu'il est révolutionnaire ? C'est parce qu'il ne traite pas le renseignement uniquement comme du renseignement, mais il le traite aussi comme un instrument de propagande.
C'est ça.
Et donc renseignement et propagande vont être intimement liés, et c'est pour ça qu'il est un des princes des agents secrets de salon, vous savez, ces aristocrates, je pense à Elisabeth von Hohenlohe, une grande famille princière allemande, qui l'utilise dans les salon pour diffuser un certain nombre de choses, mais évidemment pour récupérer de l'information. Donc ça, avec ces cellules de base, ça lui permet de... Mais je ne veux pas anticiper parce que je vois que Éric Bou... Il a envie de présenter ce qu'il connaît comme spécialiste.
Non, on n'anticipe pas. Au contraire, je pense qu'on est exactement dans cette période de l'avant-guerre où tout se décide et où tout de même notre amiral... Alors amiral, ça il faut préciser d'ailleurs, il fait sa carrière dans la marine.
Oui, bien évidemment, il rentre dès ses 15 ans à l'école des cadets de la marine ligne de Kiel, voilà, après le décès de son père qui voulait l'empêcher d'y aller. Voilà.
Et cet amiral Canaris s'insinue vraiment dans les bonnes grâces, non seulement du chancelier, non seulement de Hitler, mais de tous ceux qui sont autour. C'est-à-dire qu'il y a autour d'Hitler une sorte de groupe qui va devenir peu à peu une sorte de clique, et lui en fait partie, disons-le clairement.
Mais il y a un élément essentiel, une rencontre plutôt essentielle dans la vie de Canaris. Ça se passe à partir de l'année 1923. Il rencontre Heydrich, qui lui est en train d'être formé à l'école des cadets. Et là naît une amitié qui est absolument cruciale, je crois.
Heydrich et Himmler, tout ce monde-là sur le même bateau, hein, si je puis dire.
Oui, alors Himmler, il va venir beaucoup plus tard. Mais en tout cas, voilà, Heydrich et Canaris vont vraiment devenir amis. Et Canaris a largement contribué à la formation politique de Heydrich. Et lorsque Heydrich va justement diriger ce qu'on appelle les services secrets directement liés à la SS, donc le SD, je crois que Heydrich, lorsque va se poser la question du chef du renseignement militaire, va directement penser à Canaris, et c'est essentiellement grâce à Heydrich que Canaris a dû arriver à ce poste-là.
Alors pour clore, avant d'aller plus loin bien sûr, pour clore la question sur l'Angleterre, ce chapitre anglais dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure, je vous propose de voir dans un instant ce qu'il en a été réellement. Est-ce que oui ou non, Canaris a sauvé la vie de Winston Churchill ?
Sur Europe 1 de la bande originale du film de J. Lee Thompson de 1961. Vous avez peut-être connu les canons de Navarone.
Ah oui, j'allais dire, ça nous ramène en enfance. 61, c'est presque de la pré-enfance, là, quand même. Mais c'est vrai que quand on parle, bien sûr, du renseignement allemand en général et de Canaris en particulier, on ne peut pas s'empêcher de penser à tous ces films années 50-60. Ouais. Et en même temps, comme disait Fabrice d'Almeida à l'instant, ce sont les mangas maintenant, et vous nous disiez les bandes dessinées, en fait, Eric Kerjean.
Qui se sont accaparés un peu le personnage de Canaris, mais eux, ils suivent un peu les journalistes et les historiens. Ils le présentent encore comme un résistant, et notamment dans une BD, je me permets de donner le titre, c'est Je suis Légion. On voit Canaris qui dit que Mein Kampf est tout juste un torchon bon à mettre dans ses toilettes.
Mais en fait, que ce soit Stauffenberg, que ce soit d'une façon générale, on ne peut qu'être intéressé par ces figures qui, de façon réelle ou supposée, ont cherché à stopper Hitler, on cherchait à arrêter le mal en quelque sorte. Et donc il est normal que du point de vue de la fiction, tous les auteurs et tous les scénaristes cherchent qui on pourrait bien trouver dans la pyramide nazie, qui on pourrait bien trouver à sauver. Et je vous vois grimacer, Fabrice
d'Alveda. Non, mais c'est parce que c'est une réelle, je pense, transformation par rapport à l'après-guerre. Faut quand même penser que quand on est dans les années 50, on est en train de se recomposer par rapport à la guerre froide. On est dans un moment où l'allié allemand devient important, avec lequel on veut faire une communauté européenne de défense. Je vous rappelle ce projet qu'on a eu, qui échoue en 54, mais pendant 3-4 ans, on essaye de construire ça. On met en place à partir de 49 le commandement intégré de l'OTAN, dans lequel l'armée française travaille avec des officiers allemands. Donc on a en face de nous des gens qui ont commencé leur carrière sur le Troisième Reich, des gens qui ont avancé sous le Troisième Reich. Donc c'est avec eux qu'il faut traiter, et il faut bien essayer de construire quelque chose qui nous permette de discuter ensemble. Donc on va essayer d'isoler au fond l'élément militaire de l'élément politique. On va faire comme si la Wehrmacht, c'était uniquement un outil militaire, comme si elle n'avait rien à voir avec les décisions politiques, alors qu'on sait bien aujourd'hui plus de 70 ans après, oui, que la Wehrmacht a participé au génocide, que le Sicherheitsdienst, auquel contribuent les hommes de l'Abwehr, donc les hommes comme Canaris, a participé aux fusillades de masse sur le front de l'Est. Donc nous, nous pouvons le dire, nous nous revenons sur cette histoire parce que nous ne sommes plus dans cette prison mentale qu'était la guerre froide, avec cet ennemi communiste à nos portes qui supposait peut-être de fermer les yeux et de travailler avec des gens pas toujours très honorables.
Donc c'était volontaire, d'après vous ? Il y avait une arrière-pensée liée à la guerre froide dans la volonté de chercher comme ça un certain nombre dans cette volonté de disculper un certain nombre de dignitaires allemands.
Alors, je ne sais pas
allemands.
Si c'est disculper le bon mot, mais dans une certaine forme de cécité collective. C'est-à-dire que c'était trop... imaginez quand même un officier français. Prenez les grands officiers qui ont travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Leclerc, etc. Imaginez-les au lendemain de la guerre, face dans une réunion à Bruxelles, oui, oui, avec un officier allemand qui a commandé une unité de Panzer, qui s'est encore battu à Berlin. Face à un officier allemand, je pense à Bert Freitag von Loringhoven qui a publié ses mémoires il y a quelques années, il est le commandant qui, dans le bunker, met les petits drapeaux pour montrer l'avance des troupes soviétiques. Donc il est aux côtés d'Hitler dans les derniers jours de la guerre. Et ce type-là va être dans l'état-major de l'OTAN et va travailler tous les jours avec des officiers italiens, français, anglais. Donc si on ne sépare pas dans sa tête le fait que cet homme-là ne serait pas un génocidaire et qu'on met plutôt le fait que c'est un combattant, un homme qui a défendu sa nation, eh bien on ne pourra pas travailler avec lui.
Alors Éric Kerjean, justement, dans les liens qu'entretenait Canaris avec l'Angleterre, avec les États-Unis, est-ce que les Alliés ont pu croire de bonne foi qu'il était un peu de leur côté ?
Je crois qu'ils ne l'ont jamais cru, très sincèrement. Et on trouve un article du 24 octobre 1942, paru dans un grand magazine américain qui s'appelle Le Liberty. C'est un journaliste, Thomas Johnson, qui l'a écrit, et dans lequel il est clairement dit que les observateurs internationaux ne sont absolument pas dupes des tentatives de Canaris pour se faire passer pour un résistant auprès des Alliés.
Ouais, donc
voilà, les choses sont
tout ça
claires.
Est venu finalement après et effectivement dans le contexte de guerre froide. Alors, ce qui fascine évidemment, c'est ce qui concerne les attentats contre Hitler. Il y a notamment dans votre livre un décortiquage, si vous me passez le mot, de cet attentat du 13 mars 1943, tentative d'attentat qui se solde par un échec et dans laquelle on a longtemps vu la main de Canaris, mais peut-être pas du bon côté.
Ah oui, je ne sais même pas si on l'a vu beaucoup, la main de Canaris, dans l'attentat de Smolensk. Toujours est-il que... Pour resituer un peu les choses pour le grand public, je sais pas, vous avez sans doute vu l'opération Valkyrie, donc le film de 2008 de Bryan Singer avec Tom Cruise qui joue Stauffenberg. Donc il y a une scène de ce film où on voit justement Hitler décoller dans son Condor, et donc là il y avait vraiment une aporie, une difficulté, on savait pas pourquoi l'attentat
avait échoué. C'est-à-dire qu'en fait, pour parler clair, la bombe en l'occurrence n'explose pas.
Elle n'explose absolument pas, alors que tous les tests qui avaient été opérés auparavant par les hommes de Tresco et Gersdorf, les tests étaient concluants. Et comme par hasard, avant le 13 mars, qui arrive au camp de Smolensk avec des explosifs ? C'est Canaris. Et il a eu la bonne idée, sans doute à ses yeux, de passer par un autre endroit avant de venir à Smolensk. Et mon hypothèse, et je crois... Ça peut se confirmer, et que Canaris a fait saboter une partie de ces explosifs-là pour que la chaîne pyrotechnique ne puisse pas aboutir à l'explosion et donc à la mort de Hitler.
Donc ça, c'est un machiavélisme suprême, mais en même temps, ça n'est pas très surprenant quand on connaît la vie des services secrets.
Exactement.
Des différents pays et des différents régimes. Mais ça veut dire qu'on infiltre complètement un réseau de résistants, on se fait passer pour non seulement un complice, mais plus que ça, comme celui qui va fournir le matériel même pour mener un attentat, sauf qu'on livre volontairement un matériel défectueux.
Oui. Alors après, je crois
que... C'est un jeu dangereux quand même. D'ailleurs, c'est tellement dangereux que le pauvre Canaris, il va finir mal dans l'histoire.
Oui, mais je crois vraiment que lors de cette livraison d'explosifs, il y a quelque chose qui se joue énormément. Parce que pour la première fois, je crois, Canaris prend l'exacte ampleur du mouvement de la résistance. Et je crois que il y a eu une transition en 1943. Là, s'il y avait pu avoir des doutes... et des ralentissements. Là, il passe directement aux actes et Canaris est obligé, pour les contraindre, de rentrer aussi directement. C'est ce qui va lui coûter une bonne partie de sa vie.
Fabrice d'Almeida, le début de cette résistance organisée dans les sphères du pouvoir et surtout de l'armée allemande, cette résistance à Hitler, on la voit naître à quel moment à peu près ?
Alors c'est difficile parce qu'il y a plusieurs cercles et c'est vrai que même dans le groupe qui fait l'attentat du 20 juillet 1944, dans lequel sont les hommes de 1943, de l'attentat de Smolensk dont on vient de parler, il y a déjà plusieurs cercles. C'est-à-dire il y a un cercle de gens qui ont été éliminés du haut commandement militaire, comme Beck, qui a été mis à la retraite d'office alors qu'il était chef d'état-major. Donc il n'est pas très heureux, il se met en retrait de la politique. Il y a des hommes politiques modérés qui commencent dès 1939 à faire savoir. Mais il faut bien se rendre compte que pendant longtemps, Hitler est victorieux. Et quand, c'est vrai, enfin, il gagne, il prend l'Autriche, il fait l'Anschluss, il démantèle la Tchécoslovaquie, il envahit la Pologne, donc tout va bien. Et en plus, il écrase la France. Donc tout va, on ne peut mieux. Et puis en 1941, il décide d'envahir la Russie et il gagne. C'est-à-dire qu'il avance à toute vitesse.
Bon, alors, il commence par gagner. Oui.
Bah oui, c'est ça. Donc en gros, jusqu'en 1942, c'est très difficile d'être dans l'opposition face à un régime qui gagne tout. Parce qu'évidemment, l'opinion est très consensuelle. Et puis après 42 et surtout l'hiver 42 et l'hiver 42-43, là les défaites commencent à s'accumuler et là tout d'un coup on commence à prendre l'ampleur de ce qui risque de se passer. Et à ce moment-là, ces différents cercles, c'est-à-dire les cercles qui étaient parfois modérés comme des hommes politiques modérés, les cercles militaires un peu marginalisés, les militaires très impliqués avec le nazisme mais qui ont le sentiment que désormais ils jouent leur peau avec celle du régime, commencent à se coaliser et à penser. C'est pour ça que l'attentat de Smolensk est intéressant, parce que c'est la première fois qu'ils sont vraiment, qu'ils coagulent vraiment ensemble en 43 et qu'ils se regroupent et qu'on sent que là, ils veulent pas perdre leur position, toute cette opposition, c'est modéré, si le régime est défait. Et donc là, c'est un changement clé.
Alors, je ne veux pas du tout diminuer la force de la démonstration d'Éric Kerjean, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Canaris joue quand même sur deux tableaux ? C'est-à-dire que, tout en étant bon nazi, pur sucre, défenseur du Führer, etc., effectivement, il prépare l'avenir, ou en tout cas, il prépare son avenir.
Je dis juste un mot, parce qu'il faut qu'Éric Kerjean puisse défendre son idée, puisque c'est une idée neuve. Mais c'est vrai que le problème que pose Canaris, comme le problème que pose Stauffenberg, c'est le problème du basculement d'hommes qui ont été favorables à un système et qui, à un moment donné, veulent en sortir. Et donc, c'est clair que, à partir de là, c'est...
Sur le tard, en
voilà.
L'occurrence.
Oui. Mais nous, on a eu le même problème avec ceux qu'on appelle les vichisto-résistants.
Oui,
des gars qui ont travaillé à Vichy et qui sont rentrés ensuite dans la résistance. Donc, à quel moment ils basculent? Pour quel motif ils basculent? Donc, c'est des vraies questions. C'est des questions lourdes. C'est un peu une zone grise, hein. Tout le monde est un peu compromis là-dedans. Donc, ils décident d'en sortir, à mon avis, un peu tard. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont des motivations qui relèvent maintenant du calcul individuel et du calcul collectif. Et c'est pour ça que Canaris est ambigu. Parce que quand l'attentat de Smolensk échoue, si Canaris avait été un pur agent nazi, normalement, tous ses participants auraient dû être éliminés.
Donc, on est au printemps 43,
oui,
seulement.
Oui, mais pas tout de suite. Mmh. Pas tout de suite. Donc c'est sur ce différé qu'on peut se poser des questions. Mais je vais laisser Éric Kerjean répondre, parce que c'est vraiment une question. J'ai le sentiment que c'est un individualiste, finalement, qui retrouve la clé pour s'en sortir et qui se dit, bon, jouons un peu partout. Et on pourra discuter aussi sur un certain nombre de discussions qu'il a eues, même en France, parce qu'on l'oublie. Mais Labert avait un grand bureau à Paris, dans l'hôtel Lutetia. Oui. Et Canaris a sa chambre dans l'hôtel Lutetia, la chambre numéro 109 au premier étage, où il trouve qu'il y a une magnifique vue sur la place Sèvres-Babylone.
Nous vous donnons la parole, Éric Kerjean, pour donner votre point de vue juste après la publicité.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Extrait sur Europe 1 de L'Aigle s'est envolé. Nous intéressons aujourd'hui, je le rappelle aux auditeurs, à Canaris, l'espion d'Hitler. Franck.
Alors, Canaris, dans lequel Éric Kerjean ne voit qu'un nazi pur sucre qui aurait de temps en temps eu quelques accointances avec la résistance à Hitler, mais uniquement pour la piéger en quelque sorte, ou pour en tout cas la connaître mieux. Et la question que je posais, c'est, j'ai vu que Fabrice d'Almeida abondait dans ce sens, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y aurait tout simplement eu, chez chez cet homme un revirement, certes tardif, hein, on est après 43 bien sûr, mais un revirement, il aurait pu devenir après tout une sorte de résistant de la dernière heure au moment où il voit le Reich en train de s'effondrer. Vous dites non, pas du tout, Éric Kerjean.
Pour être très clair, oui, voilà, je ne vois aucun basculement. Autant chez Canaris, on voit quelque chose qui le bouleverse, c'est la défaite de la Première Guerre mondiale, mais après, enfin, je ne vois pas de basculement. Je vois peut-être, quand vous parlez d'ambiguïté, Fabrice d'Almeida, je vois surtout que ces résistants-là qu'il surveille, ce sont ces hommes. Ils travaillent pour l'Abwehr. Et je pense qu'un directeur des services secrets aime ces hommes. Il a beau les manipuler, il a beau les contrôler et les faire aller à gauche, à droite pour qu'ils s'en sortent plus. Je crois qu'avant tout, il y a un lien essentiel entre lui et eux. Et c'est là où l'ambiguïté est à mes yeux expliquée. Après, je vous dirais également que Canaris, quels que soient les coups, les tortures et les souffrances qu'il a pu subir, a toujours dit qu'il était un fidèle d'Hitler et que son vrai rôle avait été de contrôler la résistance au sein de l'Abwehr.
C'était peut-être aussi son système de défense, parce que ce qu'il faut dire, c'est que, bien sûr, l'attentat du 20 juillet 1944 va lui coûter cher. Cette fois, Hitler, qui déjà depuis longtemps avait des doutes sur Canaris, n'en a plus. Il estime qu'un chef des services qui n'est pas capable d'assurer totalement sa sécurité doit être remplacé, ce qui va être le cas. Non seulement on nomme un successeur à Canaris, il s'appelle Schellenberg, mais Canaris est arrêté dans sa villa de Schlachtensee. Hein, on va l'arrêter. Et là, il est conduit en camp de concentration et on commence à l'interroger très sérieusement.
Alors, si vous permettez, Franck Ferrand, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il y a une première étape essentielle qui se passe en février 1944. Là, Canaris est limogé et Hitler, grâce à une ordonnance, crée ce qu'on va appeler les services secrets unifiés. Et c'est vraiment pour faire plaisir à Himmler. Comme ça, la SS pourra tout contrôler, les services secrets. Et je crois que c'est la raison essentielle de son limogeage.
Donc, c'est-à-dire qu'il a été limogé avant l'attentat
et
arrêté après,
Oui, totalement. Donc il a été limogé pour permettre la création de ce grand service de renseignement. Je crois que ce Canaris voulait effectivement pas partir à la retraite, mais en tout cas se recréer une sorte de virginité politique pour justement entreprendre des négociations diplomatiques avec l'Angleterre, en tout cas avec les alliés. Et toujours est-il donc qu'il est amené à Lowenstein, dans un château, en retraite, pour justement se faire un petit peu oublier. Et le 1er juillet 1944, il est rappelé par Hitler et il est nommé à l'état-major pour la guerre économique. Et comme par hasard, les seuls deux pays qui restent encore en relation économique sont la Suède et la Suisse, qui sont, comme vous le savez, deux pays de pourparlers assez importants. Sauf que voilà, ce qui arrive, c'est que le 20 juillet, donc 20 jours après sa nomination, tombe l'attentat.
Voilà.
Deux jours plus tard, un ancien de l'Abwehr est arrêté et il dit clairement que Canaris, depuis 1938, est la figure tutélaire de la résistance. Et donc Canaris se fait arrêter le lendemain par Schellenberg. Et en fait, mon idée est que Canaris a été lâché par les résistants, parce que les résistants, à un moment, ont commencé non seulement à avoir des doutes sur son attitude, mais ont décidé de se venger. Et là, clairement, je crois que son arrestation est liée à ça.
C'est-à-dire qu'en fait, son jeu, là, aurait été dévoilé.
Oui. Justement, c'est dans les suites de l'attentat de Smolensk que les résistants ont eu un maximum de doutes, parce que les arrestations ont commencé à avoir lieu et l'Abwehr a commencé à être purgé. Voilà. Et si vous permettez, donc il y a non seulement cette vengeance des résistants, mais il y a aussi le rôle d'Himmler. Himmler, qui jusqu'ici, avait protégé Canaris, décide de le lâcher. Voilà.
Alors le 8 avril 1945, Canaris comparaît donc devant le juge SS Torbeck.
Oui.
Et là, il est convaincu de haute trahison et ça ne fait pas de quartier. Là,
Il y a quelque chose d'assez phénoménal qui se passe. Donc le procès commence à 20h et on fait venir Oster, donc le second de Canaris pendant des années à l'Abwehr. Et Oster lui dit « Mais arrête, dis-leur vraiment ce que tu as fait. » Et Canaris a pour seule phrase à Oster de dire « Mais ne comprends-tu pas que j'ai fait semblant ?» Voilà. Et Canaris va être frappé et va reconnaître, enfin, ce sont des aveux un peu particuliers, mais donc il va être pendu avec, donc le lendemain matin, à l'aube, le 9 avril 1900.
Avec des conspirateurs au milieu de...
Oui, oui, oui.
Et là, on l'a considéré à partir de là comme une sorte de martyr, si l'on peut dire.
Mais le problème, c'est un peu ça. C'est ce que vous dites, souvenez de dire, Franck. C'est ça. C'est le fait qu'il ait été éliminé par Hitler semble pratiquement l'absoudre. Or, là où, effectivement, c'est ambigu parce que dès son limogeage, il commence à sentir qu'il y a quelque chose qui va plus. Alors, est-ce que ça, il y a quelque chose qui va plus parce qu'il a peur qu'il y ait des preuves qui se retournent contre lui? Est-ce que c'est son opposition? Parce que c'est le moment où il envoie sa famille à l'étranger, justement, pour éviter qu'elle soit directement dans le risque. Parce qu'il y a une loi qui a été adoptée dans laquelle, quand une famille complote, quand un membre de famille complote, c'est l'ensemble de la famille qui paye la responsabilité. Une espèce de loi tribale que voulait Hitler. Donc, le fait qu'il les mette à l'abri peut montrer qu'il sait qu'il encourt des risques. Donc, c'est compliqué. Là où je suis assez d'accord avec Eric Hergent, c'est que c'est très rapide d'exonérer pour leur responsabilité militaire et pour le régime politique qu'ils ont voulu et soutenu ces hommes-là. Parce que, quand même, c'est ça qu'il faut dire. C'est que Canaris, il se rapproche des nazis à partir de 1930. À partir de 1933, il est en activité derrière eux. Il ne cesse d'agir pour eux. Il vient à Paris, pas seulement pour le champagne, mais aussi parce qu'il gère en direct ces services-là. Donc, il y a toute cette dimension. Il infiltre, il ne faut pas oublier, nos propres fours, nos propres forces de défense. Donc, c'est un homme qui soutient à mort ce régime et qui, à un moment donné, alors c'est là où peut-être Eric et moi divergeons, lui pense qu'il continue à jouer l'agent en sous-main. Moi, je pense qu'à un moment donné, il essaie de jouer toutes les cartes, comme par ailleurs son responsable indirect, Himmler, était en train de jouer le même jeu. C'est-à-dire que Himmler, à la fin du Troisième Reich, est lui aussi en train d'ouvrir des négociations et lui aussi en train de négocier avec la Croix-Rouge. Bref, on peut dire que les hommes du Troisième Reich, quand ils ont senti l'odeur du brûlé, pour certains d'entre eux, se sont dit qu'ils allaient chercher quelque part ailleurs
un extincteur. Sauf qui peut, évidemment. Canaris, le maître espion de Hitler, vous avez bien compris que c'est un livre passionnant, signé Eric Hergent et qui est publié chez Perrin. Et je renvoie évidemment nos auditeurs au dernier livre de Fabrice d'Almeida, Ressources inhumaines. C'est un livre sur les gardiens des camps de concentration et sur leur vie quotidienne, et notamment leurs loisirs.
C'est Himmler indirectement.
Très intéressant, c'est chez Fayard. Bonjour.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on fait une émission spéciale pour vous, Franck. Je vous invite à être serveur à la montagne en hiver, au bord de mer en été, vendangeur à l'automne, planteur de melons.
Tout ça. Je ne suis même pas capable de me servir un verre sans en renverser.
Allez, on parle des jobs saisonniers avec les experts européens. Pourquoi pas vous, si ça vous intéresse ou si vous avez connu quelques déconvenus, eh bien on attend vos appels au 3921. C'est 34 centimes d'euros la minute. On est là pour vous donner le guide pratique des saisonniers.
Les jobs saisonniers, c'est nous ça, Elena.
C'est un peu nous aussi. Exactement.
Dont acte.
À demain, Julien.
Avec plaisir sur Europe 1.